7 heures.
Le journal de 7 heures.
Jean-Claude Mabéa.
Vous écoutez Radio de la Paix, merci de suivre la première édition de l'actualité de ce vendredi 19 avril 2019. Voici ce qui fait la une de ces 7 heures. Économie, la troisième édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire de l'agence de notation financière d'Afrique francophone, Bloomfield Investment, s'est tenue hier à Abidjan en vue d'établir une cartographie du risque pays de la Côte d'Ivoire. Fin du dialogue national sur le financement de la santé en Côte d'Ivoire. Troisième bailleur de la santé en Côte d'Ivoire derrière les États-Unis et le Fonds mondial et premier pour le renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire. La France a réaffirmé hier son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour le financement du secteur de la santé. Vous entendrez dans ce journal Stéphanie Sédou, ambassadrice française en charge des questions de santé mondiale. L'actualité au Mali est dominée par la démission du Premier ministre Soumeilou Boubeye Maïga. Après l'actualité africaine, suivra la revue des titres des journaux de Ben Diakité. Et pour refermer cette édition, Paul-Bénédicte Bolou recevra Ali Ouattara, le président du conseil d'administration de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale CICPI, dans le cadre de l'invité de la rédaction. C'est tout pour le sommaire. Radio de la Paix, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur la troisième édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire, organisée par l'agence de notation financière d'Afrique francophone, Bloomfield Investment. L'objectif de cette conférence annuelle est d'établir une cartographie du risque pays de la Côte d'Ivoire en mettant en relief ses atouts, ses opportunités et ses axes d'amélioration afin de donner une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement. Compte rendu signé César Yao.
L'économie ivoirienne demeure dynamique avec un taux de croissance estimé à 7,4% et tiré par l'ensemble des secteurs d'activité. Stanislas Zizi, directeur général de Bloomfield Investment.
Il y a eu une amélioration du climat des affaires de 50 points de base. La note reste la même, risque faible, mais avec évidemment certaines faiblesses qui ressortent, notamment sur les risques sociaux, politiques.
Les solutions proposées par l'État n'ont pas pour le moment eu d'effet significatif pour dissiper les mécontentements des Ivoiriens vu que le taux de pauvreté reste à un niveau important. Sur la question, il faut simplement continuer de travailler. Et si Esmel Emmanuel, secrétaire d'État en charge de la promotion de l'investissement privé.
Les changements sociopolitiques existent, mais pour moi l'impact sur la Côte d'Ivoire est assez positif. Le plus important c'est d'être conscient de ses faiblesses et y travailler.
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Denis Charles Kouassi, d'y être engagé dans la modernisation de l'activité de prévoyance sociale en faisant de la CNPS un acteur de référence de l'investissement en Côte d'Ivoire.
Nos projections nous amènent à atteindre 500 milliards de portefeuille monétaire financier en 2020 et 1000 milliards en 2025.
L'économie ivoirienne devrait tirer parti des investissements importants du gouvernement dans les infrastructures socio-économiques qui viendront renforcer les acquis de la Côte d'Ivoire.
Je le disais en titre, le dialogue national sur le financement de la santé en Côte d'Ivoire a pris fin hier jeudi. Troisième bailleur de la santé en Côte d'Ivoire derrière les États-Unis et le Fonds mondial et premier pour le renforcement du système de santé, la France a réaffirmé son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour le financement du secteur de la santé. L'information a été rendue publique hier par Stéphanie Sédou, l'ambassadrice en charge des questions de santé mondiale au ministère français des Affaires étrangères. C'était à la clôture du dialogue national sur le financement de la santé. Je vous propose de l'écouter.
Il est indispensable que nos appuis convergent vers le renforcement des systèmes de santé. À cet égard, la France a été à vos côtés. Effectivement, nous sommes le troisième bailleur de la santé en Côte d'Ivoire, derrière les États-Unis, et je tiens à saluer leur engagement, et le Fonds mondial, auquel d'ailleurs nous contribuons pour une part importante des ressources. La France est le premier bailleur pour le renforcement des systèmes de santé, tout particulièrement à l'appui des réformes réformes extrêmement prometteuses que vous lancez, la réforme hospitalière, la réforme du secteur pharmaceutique et l'offre de première référence. Voilà des conditions pour le succès et la durabilité du plan de santé de la Côte d'Ivoire auquel nous sommes fiers et heureux de participer. Un mot pour dire que cette mobilisation à vos côtés, et nous l'espérons dans la meilleure coordination possible pour répondre au mieux à l'offre de partenariat que vous nous ferez, a servi de modèle à une initiative prise par notre président de la République, l'initiative présidentielle pour la santé en Afrique, qui a été annoncée à Addis Abeba en février et qui va s'adresser à l'ensemble des pays d'Afrique, à vos voisins également, sur le modèle de cet investissement dont on pense qu'il est maintenant à l'orée de sa réussite la plus éclatante qui a été fait depuis quelques années en Côte d'Ivoire.
Stéphanie Sédou, l'ambassadrice en charge des questions de santé mondiale au ministère français des Affaires étrangères. Ouvert le 15 avril dernier à Abidjan, le séminaire de formation des formateurs des femmes en politique prend fin ce vendredi 19 avril 2019. Sur les tenants et aboutissants de cette formation, écoutons Rachel Gougoua, la présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, une fêtière de 17 réseaux et organisations ayant initié ce séminaire. Rachel Gougoua.
Au terme de cette formation, les femmes ivoiriennes, et femmes et filles et jeunes filles qui veulent aller en politique, même les hommes qui veulent aller en politique, auront à leur disposition un potentiel de compétences pour les habiliter pour aller continuer leur activité en politique.
Et ce séminaire, qu'est-ce qui a été principalement enseigné?
La première des choses, ce que nous avons observé chez les femmes en politique, c'est la méconnaissance de la législation en matière des élections et les différents éléments qui la composent. Or, cela est fondamental si on veut compétir et autres. Ensuite, il y a les techniques de conduite de réunion, il y a les techniques de prise de parole en public et il y a des techniques de persuasion et comment on peut faire pour convaincre les gens, l'auditoire, la cible. Enfin, on va terminer par la mobilisation des ressources. Parce que l'un des problèmes des femmes, c'est le manque de connaissances en matière de législation électorale et c'est les difficultés de mobilisation des ressources pour leur campagne.
Rachel Gougoua, la présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, elle répondait à Soro Adams. On poursuit ce journal en nous intéressant à présent au concours de recrutement des enseignants. 120 000 préinscrits, c'est le nombre des candidats potentiels enregistrés dans le cadre des concours lancés par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'un recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. Information donnée hier après-midi à la Radio de la Paix par le sous-directeur des examens et concours pédagogiques à la DECO, c'est-à-dire à la direction des examens et concours. Guy Monin-Gabriel, c'est de lui qu'il s'agit, a précisé que les inscriptions sont terminées et bien terminées et que la liste définitive des candidats retenus pourrait être mise en ligne dès le lundi prochain. Plus de précisions sur ce dossier avec Guy Monin-Gabriel, le sous-directeur des examens et concours pédagogiques.
Pour ce qui est des inscriptions, c'est déjà fini. L'inscription est terminée depuis le 7 avril dernier. Le délai des inscriptions n'a pas été prolongé. C'est dire que quand ils doivent être candidats, nous devons authentifier les diplômes, soit de BEPC pour les enseignants du préscolaire primaire, le diplôme de bac et licence pour ceux de collège et la maîtrise pour ceux qui doivent postuler pour être professeur de lycée. Tous ces dossiers doivent être authentifiés, qu'on sache que le diplôme, il est bon.
Alors, combien d'inscrits avez-vous reçus?
Nous dirons plutôt des pré-inscrits qui sont à plus de 120 000 candidats. Les pré-inscrits, c'est ceux qui manifestent leur intention d'être candidats. En principe, à partir de lundi, on doit pouvoir mettre en ligne la liste de tous les candidats qui sont retenus pour pouvoir postuler à ces différents concours. Maintenant, on a une période de 48 heures de réclamation pour voir ceux qui n'ont pas vu leur nom et qui pensent qu'ils devraient être candidats, mais leur nom n'était pas retenu. Nous avons 48 heures pour étudier. Et puis, s'ils sont dans leurs droits, on met leur nom en ligne, qu'ils puissent retirer les convocations en ligne également. Le concours se déroule pour les enseignants du primaire et préscolaire le 28 avril, c'est un dimanche. Et pour ceux du secondaire, c'est-à-dire les professeurs de collège, c'est le 4 mai. Ceux de lycée, c'est le 5 mai.
C'était Guy Monin-Gabriel, le sous-directeur des examens et concours pédagogiques. Il était avec Soro Adams. Dans le supérieur, il n'y aura pas d'arrêt de cours dans les universités de Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs, SENEC, tenue mercredi dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On écoute à cet effet le secrétaire général de la dite coordination, le professeur Johnson Kwasi Zamina.
L'AGDR s'est terminé et la décision prise est que le syndicat doit continuer à discuter avec les autorités, surtout qu'on a rendez-vous demain vendredi avec la primature et donc il faut continuer à aller à l'école, c'est-à-dire il n'y a pas de grève pour le moment. Et nous nous retrouverons le 8 mai pour faire la synthèse. Un syndicat est jugé en fonction des résultats obtenus et nous, nous venons toujours rendre compte à notre base et c'est cette base qui dit d'arrêter ou de continuer le cours. Et hier, quand nous lui avons rendu compte, elle a estimé qu'il faille continuer de discuter avec les autorités. Donc, le 8 mai prochain, nous ferons la synthèse, comme je l'ai dit, pour voir si oui ou non on continue le cours ou pas.
La SENEC a rendez-vous ce jour, vendredi, avec le chef du gouvernement, le Premier ministre. Le secrétaire général de la SENEC, c'est le professeur Johnson Kwasi Zamina que vous venez d'entendre. Les deuxièmes journées scientifiques de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD, se tiendront du 25 au 27 juin 2019 sous le thème « Les enjeux de la sécurité alimentaire ». Annonce faite par les professeurs Biémi Jean et Malin Kla au cours d'une conférence de presse tenue mardi dernier en fin de matinée au siège de l'Académie. L'ASCAD voudrait donc créer un cadre de réflexion afin de permettre aux autorités, producteurs et aux populations d'adapter des meilleures stratégies et protéger la santé publique des populations. Les précisions du professeur Malin Kla Anglade, président du comité d'organisation de cette deuxième journée scientifique de l'ASCAD au micro de Didier Blé.
Les enjeux de l'alimentation peuvent être envisagés sur deux volets. Le volet disponibilité et accessibilité, mais également le volet qualité des aliments. Alors la problématique qui sous-tend notre intervention en tant qu'ASCAD, c'est le fait que devant la nécessité de fournir des aliments en quantité suffisante pour les populations de plus en plus croissantes, certaines pratiques autorisées sont utilisées par les agriculteurs et les producteurs. L'utilisation d'antibiotiques, de vaccins, d'hormones, de produits chimiques divers. La préoccupation de l'ASCAD, c'est est-ce que ces éleveurs sont suffisamment formés pour respecter ce que l'on peut appeler les délais de carence avant de mettre ces produits animaux ou végétaux sur le marché.
À l'instant, Malin Kla Anglade, président, le professeur Malin Kla Anglade, président du comité d'organisation de ces deuxièmes journées scientifiques de l'ASCAD sur Radio de la Paix. Il est 7h passé de 13 minutes à Bamako. Actualité donc au Mali. Le premier ministre malien Soumeilou Boubey Maïga a présenté hier jeudi sa démission au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a accepté selon un communiqué de la présidence. La démission de Boubey Maïga en poste depuis près de 16 mois intervient à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée mercredi par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Il a présenté sa démission ainsi que celle de ses ministres selon le test. Le président Ibeka a accepté la démission du premier ministre et celle du gouvernement et l'a remercié pour sa loyauté et son sens élevé du devoir, a précisé la présidence. Un premier ministre sera nommé très prochainement et un nouveau gouvernement sera mis en place après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition selon le communiqué. Sans transition, on passe à l'invité de la rédaction avant de vous proposer la revue des titres des journaux parus ce jour. Donc, l'invité de la rédaction est celui que Paul Bénédicte reçoit à présent est Ali Ouattara, le président du conseil d'administration de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale CICPI qui a organisé récemment le lancement de sa 19e conférence trimestrielle. La CICPI dit s'inquiéter du sort des victimes victimes des différentes crises qu'ont connues la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Entretien à suivre maintenant.
Monsieur Ali Ouattara, vous avez profité de la 19e conférence trimestrielle de votre structure pour vous interroger sur la situation des personnes qui ont subi des atrocités pendant les crises survenues en Côte d'Ivoire et puis dans un autre pays qui est le Congo. Alors, votre inquiétude, c'est laquelle?
Vous vous rendez compte que depuis quelque temps, il y a des acquittements qui ont cours à la CPI. C'est vrai que la CPI a deux volets, le volet répressif et le volet répressif. Et que quand il y a un procès, c'est soit l'acquittement ou la condamnation. Mais l'inquiétude, c'est l'acquittement par cascade. Nous, les perplexes par rapport au sort des victimes. Et donc, toute la problématique de savoir de Jean-Pierre Bemba à Laurent Gbagbo, d'un acquittement et un autre, quel sort pour les victimes, puisque la CPI a été créée pour les victimes. La CPI a été créée pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité dans le monde. La CPI a été créée pour éviter la vengeance des victimes. La CPI a été créée également pour éviter la récidive des bourreaux. Et donc, tel que les choses se passent, ça nous inquiète. Même si c'est une décision de justice, il faut quand même savoir ce qu'il faut faire pour ces victimes. C'est inquiétant. Et donc, il faut que nous qui sommes là, qui travaillons pour la promotion de la CPI, mais qui travaillons également pour les victimes, pour qu'on essaie de faire du plaidoyer pour que la CPI, malgré cette situation d'acquittement, puisse penser aux victimes en les soulageant.
Quelles sont les préoccupations véritables des victimes? Ce qu'elles vivent ou ressentent aujourd'hui après la relaxe de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé?
Beaucoup de victimes sont dans des situations de vulnérabilité. Hein. Il y en a qui ont encore des balles dans le corps, il y en a qui vivent des VIH-SIDA, il y en a qui souffrent, les femmes particulièrement, avec peur des viols, donc qu'il faut réhabiliter. Et il y en a également qui ont perdu leur soutien. Il y a des enfants qui sont orphelins et il y a des femmes qui sont veuves. Donc vraiment, c'est le désastre. Ça a été un choc véritable pour les victimes. Aussi bien l'acquittement de Bemba que l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé.
Ma question suivante, qui est responsable aujourd'hui?
C'est ça. Qui est responsable? Parce que les gens ne sont pas morts comme ça, comme par coup de baguette magique. Il y a des gens qui sont responsables. Donc nous, dans notre propos liminaire au niveau de cette conférence, nous avons souhaité que également des enquêtes soient menées de façon approfondie, qu'on ne fasse pas des enquêtes sans trop de rigueur, parce qu'il y a 7 ans de procès et qu'on ne trouve pas d'éléments de preuve valables, c'est qu'il y a un peu de légèreté dans ce qui s'est passé.
Oui, vous souhaitez que les enquêtes se poursuivent dans les deux camps?
Oui, bien sûr. En RCA, c'est pratiquement la même chose qu'on demande. Et ici également, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'on demande. C'est-à-dire que pendant le conflit, il y a eu deux camps. Donc, chaque camp doit répondre devant la justice. Comme nous disons toujours, l'impunité d'aujourd'hui est l'équipe de demain. Si ça continue comme ça, bon, on ne le souhaite pas, mais des victimes peuvent vouloir se venger. Et également, si des bourreaux ne sont pas punis, ils peuvent être tentés à décider à recommencer.
Quel est votre regard face à l'ordonnance d'amnistie prise pour annuler les charges retenues contre les personnes accusées d'avoir perpétré ces crimes?
Vous savez, c'est une question de principe. Vous ne trouverez nulle part dans le monde une organisation de défense des droits de l'homme sérieuse, un activiste sérieux, un défenseur des droits humains sérieux, qui va dire qu'il est d'accord pour une amnistie pour les crimes graves, les crimes décents, parce que ça va contre le droit international humanitaire. Ce n'est pas possible. Ça vous dit que ces amnisties, c'est national, puisqu'il y a eu crimes graves, il y a eu crimes décents, il y a eu des morts. Donc, au niveau de la CPI, ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Si on peut une amnistie, notre amnistie ici, ça ne concerne pas la CPI, ça ne concerne pas la justice internationale, c'est sur le plan local. Si les autorités veulent prendre ce genre de décision, il faut quand même essayer d'approcher les victimes, les personnes concernées, qu'ils donnent leur accord ou pas. On ne décrète pas la réconciliation, on ne décrète pas le pardon, on ne décrète pas ce genre de loi-là.
La situation que vit la Côte d'Ivoire et le Congo par rapport aux personnes qui ont été acquittées, pour parler de Jean-Pierre Bemba, pour parler de Charles Bégoudé, pour parler de Laurent Gbagbo et des autres. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette juridiction internationale est encore en mesure de pouvoir jouer son rôle véritablement?
La CPI est utilisée des tribunaux sur le plan local. Il y a une complémentarité qui existe. Si la CPI n'arrive pas à jouer véritablement ce rôle-là, il faut que sur le plan local, que la complémentarité puisse se faire valoir à travers l'introduction d'un autre code pénal et d'un code procès pénal, tout ce qui est comme compétence de la CPI, pour qu'on puisse justement avoir, comme le dit le statut de l'homme de la CPI, la primauté des procès, des enquêtes, des jugements dans nos différents pays, pour qu'on puisse renforcer justement la loi sur le plan national, pour qu'on puisse traiter ces gens de crimes graves dans nos différents pays. La CPI, quoi qu'on dise, c'est quand même une groupe qui est un peu jeune. Hein. Bon, donc, ça fait à peine 20 ans qu'elle existe. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il ait quand même des petites difficultés.
Je vous remercie, M. Ali Ouattara.
C'est moi qui vous remercie.
Ali Ouattara, le président du conseil d'administration de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, CICPI, se prêtait aux questions de Paul Bénédicte Boulou. Entretien à réécouter dans l'édition de 12 heures. Sans transition, nous passons à la revue des titres des journaux parus ce jour. Et c'est Ben Diakité qui a fait la revue de la presse ce jour. Bonjour Ben.
Bonjour Mabéa, bonjour à tous. Bédier Ouattara, réconciliation impossible, se demande le nouveau réveil. L'Inter informe qu'une mission de bons offices conduite par des chefs traditionnels baoulés sera à Daoukro chez le président Bédier dans les prochains jours. Illustration de cette tentative de rapprochement avec la sénatrice Tamini qui affirme Bédier a commencé avec ce que Bédier a commencé avec Ouattara, il doit continuer avec lui. C'est à la une de Le Rassemblement. Autre actualité, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est dans le nord du pays. Soro fait le grand déballage après 3 semaines de tournée, écrit Génération Nouvelle. Réaction des quotidiens proches du pouvoir, comment Soro veut masquer la réalité, censure Le Jour Plus, ou encore Soro a perdu le nord, écrit L'Expression qui qualifie son discours dans le nord de populiste et mégalo. Pendant ce temps, Soir Info revient sur les déboires d'un proche de Soro qui sera entendu ce matin même à la police, nous dit ce journal. Du côté de l'opposition, Le Temps dénonce ce qu'il appelle les manœuvres du pouvoir visant à contrer le retour de Gbagbo après son verdict d'acquittement. Notre Voix s'intéresse à la bataille du contrôle du FPI entre les camps Abdourahmane Sangaré et Afi Nguessan. Ainsi, ce journal écrit que le logo du FPI, comment la justice française a stoppé le faux. Cette justice a reconnu donc le logo comme étant la propriété de la direction du FPI actuelle.
Ben Diakité qui reviendra dans l'édition de 8h, mais avant le rappel de l'essentiel. Économie, la 3e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire de l'Agence de notation financière d'Afrique francophone, Bloomfield Investment, s'est tenue hier à Abidjan en vue d'établir une cartographie du risque pays de la Côte d'Ivoire. Fin du dialogue national sur le financement de la santé en Côte d'Ivoire. 3e bailleur de la santé en Côte d'Ivoire derrière les États-Unis et le Fonds mondial et premier pour le renforcement du système de santé. La France a réaffirmé son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour le financement du secteur de la santé. Vous avez suivi les explications dans ce journal de Stéphanie Sédou, ambassadrice française en charge des questions de santé mondiale. Et l'actualité au Mali est dominée par la démission du Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga et tous les ministres qui l'accompagnaient.